Studio Tamani, voici les informations en français.
Nous sommes mercredi 22 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les titres. La force conjointe de l'AES sera bientôt opérationnelle. L'annonce a été faite hier par le ministre nigérien de la Défense, le général de corps d'armée Salifou Modi. Le rêve de Tombouctou, mémoire du fleuve Niger, c'est le nom du nouveau livre présenté hier au Musée national de Bamako. Dans cet ouvrage, l'écrivaine espagnole relate son vécu dans le nord du pays et sur le fleuve Niger. La chronique Zoom sur parle des personnes qui ne supportent pas du tout le froid. Je suis Juliette Koulibaly à la présentation, Adjaratou Traoré assure la partie technique. C'est acté, l'Alliance des États du Sahel a sa force conjointe de lutte contre le terrorisme. Son opérationnalisation n'est qu'une question de temps. L'annonce a été faite par le ministre nigérien de la Défense, le général de corps d'armée Salifou Modi. C'était hier mardi au cours d'une interview sur la chaîne nationale. Les détails à suivre avec Adama Amadou Aïdara.
Cette force conjointe qui sera bientôt mise en place par le Mali, le Burkina Faso et le Niger aura un effectif de 5000 hommes. Selon le ministre Salifou Modi, les chefs d'état-major des trois pays ont déjà fini leur planification. Il précise que son opérationnalisation sur le terrain n'est qu'une question de semaine. La force unifiée aura son personnel, ses moyens aériens, terrestres, de renseignement et son système de coordination, ajoute le ministre nigérien de la Défense. Il a par ailleurs annoncé des opérations déjà entreprises par les pays de l'AES pour lutter contre l'insécurité dans leurs zones respectives. A rappelé que la mise en place de cette force conjointe intervient à moins de 2 ans de la création de l'AES, un pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger le 16 septembre 2023. Cette annonce intervient au moment où le nouveau président du Ghana a nommé un envoyé spécial auprès de l'AES. Objectif, renouer les relations entre son pays et les pays membres de l'Alliance.
Cette volonté des pays membres de l'AES de combattre ensemble le terrorisme au Sahel est salutaire, selon Dr Ali Tunkara, analyste sécuritaire. Toutefois, il affirme qu'il y a toujours le besoin de collaborer avec les pays frontaliers pour mener à bien cette lutte contre le terrorisme. Ali Tunkara est joint par Adama Amadou Aïdara.
Rappelons quand même que les trois pays avaient cessé d'intervenir militairement de manière conjointe. Avec cette mise en commun, les efforts, cela pourrait contribuer à réduire l'intensité de la menace. Mais de là aussi, il faut être réaliste dans l'analyse. Il y a toujours ce besoin d'impliquer des acteurs autres que ceux de l'AES, en l'occurrence des pays comme la Côte d'Ivoire, la Mauritanie. Et l'Algérie reste des États importants pour contenir la menace terroriste et ne pas pouvoir se métastaser vers le sud et même vers le pays du Golfe.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Les concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'année 2024 sont ouverts depuis le 17 janvier 2025. Au total, 773 postes sont à pourvoir. Le dépôt des dossiers a commencé ce mercredi 22 janvier 2025 et se poursuit jusqu'au 21 février 2025. Les 10 concours se dérouleront du 5 au 20 avril 2025 dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et dans le district de Bamako. Autre actualité de cette édition, un Mieuzien a été tué à coups de gourdin ce mardi 21 janvier 2025 à Bamako. Les faits se sont déroulés à l'aube dans une mosquée à Irimadjo, Bakorobabougou. L'auteur du crime est présenté comme un déséquilibré mental. Le collectif des associations musulmanes du Mali s'est dit profondément indigné par ce nouveau drame. Mohamed Kimbiri, membre du collectif, demande aux autorités de sévir selon la morale islamique et appelle à la levée du moratoire sur la peine de mort. Il est joint par Ali Cissé.
Un déséquilibré mental n'est pas une personne ordinaire, une personne normale. Il faut que les autorités agissent vraiment selon la morale islamique. Quand des gens normaux se permettent de tuer pour pouvoir les libérer, on dit toujours que vraiment c'est un déséquilibré. C'est des stratégies pour donner des portes de sortie vraiment à des assassins. C'est des choses à éviter. Nous avons toujours demandé aux autorités la levée du moratoire sur la peine de mort. D'après le Coran, vie pour vie. Donc une fois quand tu tues, toi-même tu es éliminé, mais vraiment ça va dissuader les autres. Si la peine de mort était appliquée, les gens seraient à l'aise. Parce que chaque fois qu'on voit les mêmes personnes, c'est toujours la haine qui va venir dans nos cœurs.
Je vous le disais dans les titres, Le rêve de Tombouctou, mémoire du fleuve Niger. C'est le nom du nouveau livre de Irène Lopez de Castro, écrivaine et peintre espagnole. Dans cet ouvrage de plus de 200 pages, l'auteur relate son vécu dans le nord du pays et sur le fleuve Niger. Le livre a été présenté hier au Musée national de Bamako devant l'ambassadeur d'Espagne au Mali et d'autres diplomates. Irène Lopez de Castro s'est dit impressionnée par la diversité culturelle au Mali. Elle est au micro de Oumar Waïgalo.
Je parle de toute une expérience qui a duré 35 ans déjà. À partir de mon premier voyage au Mali, 1989, j'étais très impressionnée par la beauté de ce pays et je suis tombée amoureuse vraiment du fleuve Niger, mais aussi du gens, de le paysage. J'ai retourné plusieurs fois. Je parle aussi de ce que j'ai appris de la société et de la culture aussi du Mali, surtout où les premiers jours dans les grands marchés, c'était un jour que je n'oublierai jamais parce que c'était très impressionnant pour moi. Toutes les femmes, j'étais très impressionnée pour les costumes, les choses sur la tête, les enfants au dos.
Sur un autre registre, le poisson fumé est une denrée très prisée au Mali. Il est exporté, vendu dans d'autres contrées selon les vendeurs. Ils témoignent qu'ils tirent bien leur épingle du jeu dans sa commercialisation. Des jeunes sans emploi s'adonnent à son technique de fumage. Cependant, nombreux sont les consommateurs qui ignorent la provenance du poisson fumé. Comment se déroule le technique de fumage du poisson? Est-ce que les conditions hygiéniques sont respectées? Des éléments de réponse dans ce reportage de Lalaïcha Wallet Infa.
Des femmes rencontrées au marché de Medinakura et de Misabougou disent qu'elles achètent et consomment les poissons fumés. Mais elles ignorent les étapes de fumage des poissons.
Nous, quand même, on achète et on consomme. On ne sait pas si c'est propre ou pas. Mais si tu demandes au vendeur de faire pour toi-même, tu peux être sûr que les conditions d'hygiène seront respectées.
À vrai dire, je ne connais pas grand-chose sur les mesures hygiéniques, mais je consomme tout de même.
Vraiment, je ne sais pas comment on fume les poissons. C'est pourquoi je ne peux pas faire un commentaire sur son hygiène.
Sinali Dambélé, spécialiste en aquaculture, chef du secteur pêche de la rive droite de Bamako. Il indique que pour avoir des poissons fumés sains et de qualité, il faut passer par plusieurs étapes et mesures sanitaires.
L'endroit où on va stocker les poissons, que la glace provient vraiment d'une eau qui n'est pas contaminée. Les gens qui vont manipuler les poissons soient aussi propres, donc le matériel des différents processus, que ce soit lavage, que ce soit les entretiens, que ce soit les gouttes, que ce soit les fours.
Pour les spécialistes, la qualité du poisson fumé ne dépend pas seulement du four, mais du moment de la pêche et les conditions de conservation.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Les vignettes pour les engins à deux roues et tricycles sont disponibles depuis début janvier 2025. À Bamako, la vente de ces pièces se déroule à la mairie du district pris d'assaut par des usagers pour avoir le document. À Kouchala, Kaï et Badjangara également, la vente de la vignette a commencé. Alors qu'à Sikasso, Ségou, Mopti et Gao, l'opération n'a toujours pas démarré. Écoutons les réactions des usagers et des responsables de mairie au micro de Moussa Malé Sissoko avec le soutien de nos correspondants.
Il y a eu beaucoup de changements, les clients sont vraiment respectés.
L'une des innovations cette année est l'enregistrement de la vignette au nom de l'usager. On prend aussi son numéro de téléphone, une nouvelle méthode contre les vols. C'est bien organisé. Les guichets sont répartis en fonction des vignettes de 6 000 et celles de 12 000. Mais ce sont les coxers qui nous embêtent beaucoup à la porte.
Et je viens de recevoir le lot des vignettes ce matin même. Les vignettes ont acquis un peu de retard. Précisément demain, Charles, la vente va commencer.
Les ventes de vignettes ont commencé dans la commune de Bendekaï. Toujours c'est l'ancien format qui est en papier. Mais le prix est mentionné là-dessus et la date aussi.
L'acquisition de ce document a démarré le 10 janvier à la mairie urbaine de Kuchala. Mais les usagers viennent timidement.
Dans la chronique Zoom sur d'aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui ne supportent pas le froid, mais alors pas du tout. De ce fait, elles entassent les pulls comme s'il neige. Lala Diarra Touré nous en dit plus.
Avoir le style de ma collègue Safian en ce moment, on se croirait en Sibérie, là où le thermomètre affiche des températures extrêmes. Depuis le début de la saison froide, on a eu droit à tous les looks possibles et imaginables. Le matin, elle vient au service en grelottant. Et en sa présence, il n'est pas question de ventiler le bureau, encore moins de mettre la climatisation. Elle va souvent jusqu'à cacher la commande du climatiseur. Elle empile les pulls deux par deux. Et tenez-vous bien, ce sont des pulls souvent en cuir, assortis avec des turbans, sans oublier bien sûr les jeans, les bottes, les gants qu'elle trimballe toute la journée. Bien qu'armée de tout cet arsenal, Safia se plaint toujours au bureau. Voilà son reflet en ce moment. Mais vous n'avez pas froid vous autres. À mon avis, tout comme la climatisation, on aurait dû prévoir un système de chauffage dans les constructions. Cela nous éviterait certainement de souffrir autant pendant le froid. À ce stade, la question que vous vous posez est la même qui nous taraude l'esprit. Est-ce que Safia se lave? En tout cas, nous continuons les investigations.
Ah Lala Diarra Touré, il faut continuer avec tes investigations. Fin de ce journal présenté par Juliette Koulibaly à Diarratou Traoré assurait la technique. Juste après le magazine, vous aurez la rediffusion du Grand Dialogue du 16 janvier 2025 dont le thème est Journée nationale de souveraineté retrouvée, focus sur les volets politiques et développement. L'injection est un acte médical banal, mais aux conséquences graves lorsqu'elle est mal faite. C'est le thème de notre magazine Santé du jour, une réalisation de Ousmane Nialibouli avec le concours de nos correspondants.
Mustapha Camara, un habitant de Yuaru, a déjà été victime d'une injection ratée. Aujourd'hui, il continue de porter les séquelles de cette erreur médicale.
Je suis tombé malade, c'était du paludisme très grave, j'ai fait des injections. Un agent de santé m'a fait une piqûre qui s'est mal passée. Il n'a pas trouvé les veines. Suite à cet incident, j'ai eu un handicap au pied droit.
Tout comme Mustapha, ils sont nombreux les citoyens qui se méfient des injections avec certains personnels de santé. Certains déplore aussi la qualité des formations.
Oui, les agents de santé, je trouve qu'ils font bien leur travail. Mais sans aussi oublier que souvent, il y a des stagiaires où ils leur donnent la main avant qu'ils ne soient vraiment aguerris.
Vraiment, moi, j'étais à la piqûre. J'ai fait ça parce que je n'ai pas le choix. Sinon, vraiment, je ne fais pas confiance.
Actuellement, nous assistons à tellement d'erreurs médicales qui coûtent la vie à d'autres vies.
J'ai peur et je refusais de faire l'injection depuis plusieurs années. Quotidiennement, maintenant, on voit des gens qui sont devenus handicapés à cause de ça.
Pour faire une injection, il faut être qualifié, affirme Moussa Kipsi Haïdra, infirmier PhD anesthésiste réanimateur au centre de santé de référence de la commune de Bamako.
Le premier principe, c'est qu'il faut des équipements appropriés. Deuxième principe, c'est que les soins ne doivent pas nuire aux patients. Il ne faut pas que ces soignants aussi s'exposent. Sécuriser aussi les aiguilles. Il faut également la qualification du personnel soignant. Donc quand on injecte, on doit prendre le temps. Mais avant, qu'est-ce qu'on doit injecter au patient? Il faut le connaître. Tu vérifies le produit, la voie d'administration, la date de péremption.
L'infirmier déconseille aussi cette pratique à domicile. Selon lui, faire les injections sans des équipements adéquats peut avoir des conséquences négatives.
J'aimerais bien attirer l'attention des soins à domicile. Si le personnel n'a pas une équipe mobile, ce ne seront pas des soins, je peux dire, sécurisés. Vous voyez, souvent, dans nos traditions, on va faire des soins parfum. Et à la maison, c'est le parfum qu'on utilise pour désinfecter la partie. Ça, c'est pas du tout bon, c'est pas adéquat.
Que dit la loi quand une erreur se produit lors d'une injection? Selon le Conseil national de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Mali, la question se traite à plusieurs niveaux. Sidi Koulibaly, le secrétaire général du Conseil, nous explique les différentes étapes.
Si c'est un fonctionnaire, il est sanctionné par la procédure normale de la commission disciplinaire du ministère de la fonction publique et du travail. Quand c'est un privé, c'est l'ordre qui peut sanctionner. Mais l'ordre ne sanctionne qu'après une saisine. Après l'appréciation, investigation, le dossier monte au niveau du Conseil national, conformément aux dispositions des textes réglementaires, en fonction de la gravité du dossier. Il traite et il inflige soit un avertissement, soit un blâme, soit une interdiction temporaire ou une radiation au Conseil.
Rappelons que l'injection peut être réalisée par plusieurs voies, notamment intraveineuse, sous-cutanée, intramusculaire ou encore intra-osseuse.